Voilà, alors c'est Solidaire d'abord. Ce soir avec deux invités qui vont nous parler de la Nouvelle-Calédonie et de ce qui s'y passe. Plus largement peut-être aussi un petit peu de l'État français avec son aspect colonial ou néocolonial, comme on voudra. Et donc, place aux experts, à la fois Richard et Raphaël, qui vont venir nous expliquer un petit peu cette situation dont personne ne parle. C'est quand même assez curieux, hein. Même là, on est pratiquement à la date anniversaire et personne n'en parle. Alors Richard, pourquoi on n'en parle pas ?
Pourquoi on n'en parle pas ? Je dirais qu'on en parle un peu quand même, puisqu'il y a eu donc des négociations ces dernières semaines donc, entre les loyalistes et les indépendantistes donc, à Nouméa, donc, sous l'égide du ministre Valls, donc, ministre de la coopération des Outre-mer. Mais effectivement, bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est très ancien. Alors nous, on parle aussi de Kanaky, hein, parce que c'est un territoire qui est à l'origine peuplé essentiellement de Kanaks.
Alors ça a été colonisé quand ?
Alors donc la colonisation, elle remonte à 1853. Hein. La France a donc envahi l'archipel. Donc ils avaient besoin d'espace pour créer donc à l'époque un bagne. Hein, donc, ouais. En 1864, décide de créer un bagne, donc qui va servir très rapidement, hein, puisque suite à la Commune de Paris, donc il y a 4250 communards qui sont déportés. Alors avec des statuts différents, pas tous bagnards, mais parfois ils sont libres, mais ils sont déportés. Donc en Nouvelle-Calédonie, Kanaky.
1853, c'est le Second Empire. C'est ça, c'est
Napoléon
III. Et il était dans une optique très, très colonialiste, lui, en fait. L'Empire français, quoi.
Je dirais pas plus que la République précédemment. Hein, la conquête coloniale, enfin la deuxième conquête coloniale avec l'Algérie, ça commence en 1830. Hein, ouais. Et ça a été repris par les républicains, poursuivi par les républicains, et ensuite, effectivement, par les régimes qui se sont succédés.
Alors donc, en avançant, Richard, quand on préparait tout à l'heure, tu parlais après du fait que ce bagne est créé et qu'il va y avoir des gens qui vont aller dans le bagne.
Oui, donc déportation des communards, déportation de 2000 résistants algériens, hein, donc réprimés donc, suite à l'insurrection contre la colonisation française. Ça, on en parle un peu moins.
Hein. On en parle moins.
Effectivement, et en 1878, il y a la première révolte kanak contre l'accaparement des terres, hein, donc avec le grand chef Ataï. Et puis, il y aura donc successivement différentes révoltes. Hein, en 1917, contre l'enrôlement donc des Kanaks et des Caldoches donc dans la guerre 14-18, et puis donc avec un taux de mort très élevé, hein, donc visiblement on les a bien utilisés comme de la chair à canon. Et donc voilà, donc il y a cette politique donc d'accaparement des terres et puis aussi donc colonisation de peuplement.
Après, tu passais en 1945, parce que là, on fait juste un petit tableau très rapide, hein, pour venir à la situation actuelle. En 1945, abolition de l'indigénat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça ?
Bah, c'était le code de l'indigénat, donc qui régissait un peu les droits, enfin, les devoirs, mais enfin, il n'avait pas beaucoup de droits d'ailleurs. Mais
le travail forcé, notamment.
Le travail forcé, voilà. Oui.
C'était un projet politique qui consistait à ne pas abandonner l'Empire, mais à abandonner le nom de l'Empire, passer à la communauté française, et du coup d'abandonner, de lâcher un petit peu de lest sur l'institution coloniale telle qu'elle existait antérieurement. Mmh. Et donc, voilà, ce statut des indigènes disparaît à cette occasion-là, sans pour autant aboutir à l'égalité formelle, juridique, entre les colonisés et les colons dans aucune colonie.
Oui, parce que, par exemple, droit de vote...
Non, donc le droit de vote, il faudra attendre 1957, alors que, bon, la citoyenneté, enfin, les Kanaks ont eu la citoyenneté française en 46, mais ils ont dû attendre 1957 pour que tous puissent voter. Au départ, il n'y avait que les chefs de tribus. Hein. Il y avait 200 et quelques électeurs kanaks.
Après, tu parles de 1970 avec les étudiants. Tu parles aussi de l'assassinat de, comment tu dis, Pierre de Clercq. Hein, c'est
oui.
Ça.
Alors, oui, on arrive donc à la fin des années 70. Donc, les Kanaks s'organisent, et notamment des étudiants Kanaks qui étaient venus en métropole. Donc, ils vont créer à l'époque le Palika, et qui est un des premiers partis composant le FLNKS. Et puis, il va y avoir, donc, en 1981, l'assassinat de Pierre de Clercq, alors qu'un caldoche mais favorable à l'indépendance, qui était un des dirigeants du FLNKS. Et après, donc, au cours des années 80, il y a une succession donc d'assassinats, d'escarmouches et d'embuscades. Et notamment, il y a aussi en 1984 l'embuscade de Yengen, où il y a 10 Kanaks qui revenaient d'une réunion du FLNKS qui sont assassinés.
Hein, donc, FLNKS, excuse-moi.
Front de Libération Nationale, ouais. Kanaks et Socialistes. Hein, ouais. Et donc, le Yengen, donc, les 10 tués, il y a dont deux frères de Djibaou, hein, de Jean-Marie Djibaou, qui était un des principaux dirigeants donc, du FLNKS. Et puis, il y a l'assassinat aussi d'Eloi Machoro au début 85. Donc, une période vraiment de tension importante. Et du coup, donc, face à cette montée de violence de part et d'autre, parce qu'il y a aussi beaucoup de violence de la part donc, des caldoches. Hein, les caldoches donc,
alors, qui sont les, qu'est-ce que c'est, les caldoches?
Qui sont, en fait, les descendants d'Européens, en fait, hein, qui sont les colons, hein, qui pour certains sont issus de bagnards, d'ex-bagnards ou de déportés. Hein.
Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on aurait pu croire qu'ils auraient été toujours plutôt de gauche ou plutôt dans un truc où voilà, tout le monde a égalité. Tu disais que dans ses descendants, il y en a certains qui maintenant sont des légitimistes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, ils ont des noms à la noix d'ailleurs, forcenés un peu.
On va dire que Pierre de Clercq était une exception, une des rares exceptions, c'est-à-dire très majoritairement les caldoches se situent du côté des intransigeants, de la droite dure et qui refusent de partager, enfin qui domine en fait la politique et qui contrôle aussi l'économie donc sur l'archipel, en tous les cas donc principalement sur la province. Province sud, en fait, de la grande île.
Alors là, tu as dressé le tableau, excuse-moi Raphaël, tu as dressé le tableau un petit peu historique qui nous amène là. Et justement, je voulais te demander, Raphaël,
je voulais réagir à ce que disait Richard pour dire que ce qui est intéressant de montrer en miroir à ça, c'est que le projet politique du FLNKS, lui en revanche, il n'est pas stricto sensu pour la défense exclusive des Kanaks sur la Nouvelle-Calédonie Kanaki, et c'est un projet politique qui intègre justement à la fois la présence d'autres communautés, les Mélanésiens de manière générale, et également la présence de ces descendants de colons qui n'y sont pour rien, qui se sont retrouvés là de par l'histoire, et que le projet politique qu'ils portent, c'est un projet qui englobe toutes ces catégories de la population, donc ce n'est pas un projet excluant.
Il y a aussi des Asiatiques, non? Comment ça se passe?
Oui, alors après, sur les proportions de population, je ne serais pas capable de répondre.
Des Mélanésiens, mais il y a eu l'importation de main-d'œuvre au début de l'exploitation, donc du nickel, donc des Japonais, donc des Tonkinois, des Javanais, qu'on est allé chercher à l'époque, à la fin du 19e, au début de l'exploitation du nickel.
D'accord. Alors, on arrive à l'histoire beaucoup plus récente, dont on a tous plus ou moins mémoire, ou en tout cas, les infos, à des moments, y font référence. Donc, on se retrouve au moment où il y a les accords de Matignon, mais la grotte d'Ouvéa, tout ça, enfin, ça va parler à des gens, je pense, tout ça. Mais peut-être qu'il faut que vous nous resituiez un petit peu tout ça dans le contexte.
Donc, entre tous ces accrochages, il y a eu donc des tentatives politiques. Hein. Il y a eu donc le statut Fabius Pisani, bon, 85-86, qui était un peu une réponse à ce qui s'était passé, donc aux incidents qu'il y avait eu au début des années 80. Bon, mais après, avec le changement de gouvernement donc en France, il y a eu une autre politique qui a été menée, donc avec le statut Pons, beaucoup plus favorable au Caldoche, donc, et qui avait été rejeté donc, pour le coup par le FLNKS. Et donc il y a effectivement, on arrive en 88 avec les incidents d'Ouvéa. Ouais.
Là, ce que tu as resitué, c'est un petit peu droite et gauche, influence droite et gauche au moment où justement on arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que si on était à gauche, on pouvait avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus large que la fermeté qu'a amené la droite.
On peut dire qu'il y a eu quelques différences donc, dans les propositions qui ont été faites. Enfin, c'est objectif, on va dire. C'est entre le statut Fabius Pisani et le statut Pons, il y avait des différences importantes. Ouais. Mais par rapport aux droits accordés, plus de décentralisation et compagnie. Mais bon, suite à ce qui s'est passé donc à Ouvéa, où il y a eu quand même 19 morts...
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ouvéa, c'est quoi ? C'est une prise d'otage ? C'est quoi ? Parce qu'on vous explique que c'est une prise d'otage. C'est une prise d'otage.
Oui, c'est une prise d'otage. Et qui s'est soldée dans la violence sur instruction de l'exécutif français, alors que vraisemblablement, ça aurait pu se terminer autrement par des négociations. Voilà, mais il fallait faire œuvre de fermeté. Et donc...
D'accord. Et donc, on se retrouve là, juste après, dans une situation qui est vraiment très, très inflammable. Hein, et à ce moment-là, il y a les accords de Matignon.
Les accords de Matignon qui interviennent donc, sous le gouvernement Rocard, hein, donc, qui prévoit donc, un nouveau statut, une décentralisation, un transfert de compétences. Et donc, ces accords sont... soumis donc à la population française pour approbation. Donc il y a donc eu une consultation donc en juin 88 donc par rapport à ce projet. Voilà.
Je peux lire la question qui était posée lors du référendum qui est,
oui.
Approuvez-vous le projet de loi portant sur les dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie? Donc on pouvait penser qu'il y aurait une ouverture, là, peut-être.
Oui, ben, disons que bon, ces accords, ils avaient été acceptés donc, à la fois par le représentant du Rassemblement donc, calédonien pour la République, et Jacques Lafleur, et puis Jean-Marie Djibaou pour le FLNKS. Bon, il a été soumis donc, à effectivement, un référendum. Alors, pour la petite histoire, moi j'étais militant donc, dans la solidarité avec les Kanaks depuis 1984-1985. Nous, notre position, c'était de ne pas participer. C'est-à-dire, on considérait qu'effectivement, ces accords étaient une avancée, mais que c'était aux Kanaks et aux résidents, donc Nouvelle-Calédonie Kanaki, de se positionner.
Et c'est quoi tu as fait, par rapport à ça ?
Alors non, mais tout à fait, c'est une position... alors moi, j'étais pas en âge de voter à l'époque, mais en tout cas, je comprends tout à fait cette position. Rétrospectivement, on peut quand même, surtout au regard des discours politiques qui sont tenus aujourd'hui, on peut souligner que c'est quand même un processus qui se voulait explicitement comme un processus de décolonisation.
Oui.
Voilà. Donc avec une finalité quand même implicite assez forte.
Oui, c'est ce que je pense que beaucoup de gens ont compris. Hein, mais bon, il s'avère que c'est pas ça qui s'est passé.
Aujourd'hui, c'est remis en cause, en tout cas.
Voilà, c'est ça.
Oui. Alors, bon, ces accords, ils prévoyaient aussi donc, un référendum hein, donc, d'autodétermination donc, pour 1998.
Parce que tout ça, par rapport à ce que tu viens de dire, Raphaël, l'ONU, normalement, avait aussi...
considère que la Kanaky est un territoire non décolonisé, oui. Comme Mayotte, par exemple.
Oui.
Depuis 1946.
Donc il y a eu, et il y a eu à plusieurs reprises un rappel à l'ordre de l'ONU.
Ça a été réaffirmé, oui.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors après, on avance. Nouméa, 10 ans plus tard.
Ouais. Donc 1998, oui. Donc les accords de Nouméa, donc ils renforcent aussi donc l'autonomie hein, et prévoient donc un référendum final donc sur la gestion de l'avenir inconstitutionnel. Donc c'est bon, pratiquement l'accès à l'indépendance. Hein. Et donc, il prévoit donc, plusieurs possibilités de référendum. Et donc, il faut que, sachant que donc, ceux-ci devront intervenir entre 2014 et 2018. C'est ce qui était prévu. Donc,
Et en attendant, il prévoit qu'il y ait un transfert de compétences qui se mette en place, sauf pour la défense, tenez-vous bien, sauf pour la défense, la sécurité intérieure, la justice et la monnaie. Donc, en gros,
l'accord prévoyait, c'était également le gel des corps électoraux. Ouais. Et ça, c'était important, puisque, effectivement, donc, tous les Européens qui sont arrivés à partir de 1998 en Nouvelle-Calédonie n'étaient pas considérés comme électeurs potentiels.
Alors après, on se retrouve avec ces trois référendums qui sont organisés. On avance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Les trois référendums qui sont organisés ces référendums, ils ont chacun une petite histoire. Je ne sais pas si vous voulez juste un tout petit peu les détailler rapidement.
Non, ce qu'on peut dire, c'est que le premier, il intervient donc pratiquement à la date limite parce que c'était prévu entre 2014 et 2018. Et donc le premier, il a lieu le 4 novembre 2018. Donc le non l'emporte.
On est au bout.
Avec 56,4%.
Ce qui était prévu. Le non à l'indépendance.
Ouais. Non à l'indépendance. Deux ans plus tard, donc il y a un deuxième référendum, donc 4 octobre 2020. Le non est à 53,26. C'est-à-dire qu'il y a une évolution.
Ça a baissé,
donc voilà. Et le troisième, donc la date était à définir. Puisque, effectivement, ce qu'on n'a pas précisé, mais c'est qu'il y avait un accord entre les différentes parties pour fixer les dates. Là, en fait, Macron donc, a décidé d'imposer donc, un troisième référendum donc, en décembre 2021, malgré l'opposition donc, des Kanaks, hein, qui, suite à la pandémie, donc, qui avait affecté la pandémie de Covid, qui a affecté donc, une grande partie de la population. Donc, ils avaient considéré qu'ils avaient un deuil qui dure plusieurs mois et qu'ils n'étaient pas disposés donc, à voter à ce moment-là. Et du coup, donc, ils ont appelé au boycott. Hein, des organisations kanaks ont appelé au boycott. Et donc, le non est repassé donc, passé à 96%.
Bon, le non passé à
96%. Pour autant, Macron a considéré qu'on avait terminé le processus de consultation et que, effectivement, à présent, donc, on pouvait donc, revoir le corps, réviser les corps électoraux.
C'est beau la démocratie. Bon.
Oui, est-ce qui, je pense, une des raisons de ce blocage, de ce durcissement, c'est qu'une des leçons du deuxième référendum, c'est justement que ce progrès de l'idée indépendantiste ne touchait pas uniquement la communauté kanak, mais pénétrait d'autres communautés et faisait planer le spectre d'un oui majoritaire à échéance. Voilà. Donc, je pense que c'est la raison, une des raisons du blocage.
Et à peine, en fait, il y a le troisième qui est voté. Très vite, Macron décide d'intervenir sur le dégel du corps électoral. Alors peut-être vous pouvez en dire un petit mot.
Il faut rappeler d'abord que il y a eu une politique de peuplement continu de la part de la métropole en Nouvelle-Calédonie, Kanaky, au point que la communauté kanak est devenue minoritaire sur son territoire. Donc c'est quand même une situation particulière. Et dans cette situation-là, il y a eu des discussions donc au moment de Matignon sur ce qu'était le corps électoral, qui avait le droit de voter, et évidemment les derniers arrivés parmi les Européens ne pouvaient pas prétendre au vote. Et c'est cette règle-là qui a été remise en cause par Macron récemment et qui a provoqué l'insurrection qu'on a connue en Kanaky.
Ce qui s'est passé il y a un an, quoi, puisque là on est à la date anniversaire.
Oui, tout à fait, ouais. Le 13 mai 2024, donc le début du processus.
Oui. Et alors donc, à la suite de ça, l'État colonial français a réaffirmé son pouvoir en chopant des gens, en les expatriant, hein, quelque part. Ils sont chez nous, il y en a certains qui sont chez nous, à 17 000 kilomètres de...
C'est-à-dire, bon, déjà, il y a eu des morts, hein, donc 12 Kanaks qui ont été tués, hein, et 2 gendarmes, donc 14 morts, il y a eu des centaines de blessés, il y a eu 3 000 arrestations, il y a eu à peu près 250 243 incarcérations. Donc il y a eu une répression implacable. Hein, donc Macron, considérant qu'effectivement le processus étant terminé, il fallait respecter donc les règles de la République. Et donc effectivement le mois suivant, donc déportation. On retrouve le terme de déportation, mais dans l'autre sens. Hein. Là, il s'agit de déportation donc de Kanak. Les 7 dirigeants, 7 des 13 dirigeants qui ont été arrêtés. Hein. Il y a eu 13 dirigeants qui ont été arrêtés. La cellule de coordination des actions de terrain, qui
CCAT, hein.
CCAT, qui accusait d'avoir fomenté donc, les événements et d'avoir été à l'origine. Et donc 7 ont été donc, déportés en France, dont 5 incarcérés donc, dans des différentes prisons et 2 qui sont assignés à résidence, 2 femmes. Et parallèlement, comme avec le compte tenu du nombre de important d'incarcérations, donc il a fallu vider un peu les prisons donc calédoniennes, et donc on a également envoyé donc 60 à 70 prisonniers donc de droit commun dans les prisons françaises.
Oui, donc pour la Nouvelle-Calédonie, nous on est un peu la Guyane, quoi. Hein, ils nous ont exporté les.
Mais il faut comprendre que ces gens-là ne voient pas leur famille et n'ont aucune possibilité de la voir et se retrouvent isolés complètement, privés de tout.
Ouais. Moi, ça me faisait penser aussi, je te disais, ça me rappelait tout ce qui s'est passé pour Toussaint l'Ouverture. À un moment, bon, voilà, on expatrie les gens, comme ça, ils meurent loin de chez eux, et puis voilà, l'État a montré sa fermeté.
Oui, et puis on a des dirigeants qui sont donc incarcérés, sans jugement. On a donc des prisonniers de droit commun qui ont été envoyés en France et qui, depuis, ont terminé leur peine. Hein, c'est-à-dire il y a eu un cas où il lui restait plus que 5 mois, il n'a pas eu le choix, on l'a envoyé en France. Et donc aujourd'hui, il n'a pas les moyens de rentrer donc, dans son pays. D'autres ont terminé leur peine, mais ils sont assignés à résidence en France encore pour 2 ou 3 ans avant de pouvoir rentrer donc, en Kanaky.
Alors, on avance parce qu'il nous reste plus beaucoup, il nous reste 3 minutes, un petit peu à peu près. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu as expliqué tout à l'heure sur le fait que dans ces accords qui sont proposés par Valls là dernièrement, il y a deux postures. Il y a une posture, on va dire Matignon, et une posture Élysée, c'est ça?
Oui, ben il y a eu des tensions, enfin tensions et des différends donc entre la présidence de la République et donc le gouvernement Bayrou, et y compris aussi l'intérieur du gouvernement Bayrou, c'est-à-dire que par exemple le projet donc Valls prévoyait l'ouverture des négociations sur le transfert de compétences régaliennes. Et comme par hasard, les ministres régaliens du gouvernement Bayrou, que sont Darmanin, Retailleau et Lecornu, sont montés au créneau pour s'opposer donc à cette. Ont soutenu largement donc les caldoches et la droite calédonienne donc pour refuser ce projet donc d'accord.
Donc deux postures au gouvernement, enfin une à l'Élysée,
une. Une résolument anti-indépendantiste et même anti-autonomie, et puis une autre qui était un retour à l'esprit des accords de Matignon, on pourrait dire.
Une ouverture, quoi, mais qui a été. La porte est fermée.
Hein. Aujourd'hui, oui.
Voilà. Bon. On n'a plus le temps, effectivement. Raphaël, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte géopolitique, peut-être, enfin, dans l'espace la Nouvelle-Calédonie.
Oui, il faut resituer ça dans l'ensemble des possessions que la France conserve encore dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. Hein. On a parlé de Mayotte tout à l'heure, mais il y a aussi des différends avec d'autres pays, comme les îles Éparses avec Madagascar, par exemple. Et tous ces petits territoires, enfin plus ou moins petits, qui font que la France possède la deuxième zone économique exclusive maritime mondiale, derrière les États-Unis. Donc intérêt économique, intérêt géostratégique, peut-être demain intérêt d'exploitation des fonds marins. et un intérêt qui est peut-être aujourd'hui encore plus fort du fait que la France perd en influence dans son précaré africain et a l'impression qu'elle est menacée davantage aujourd'hui sur ces territoires non décolonisés. Et par exemple, elle attribue à des influences étrangères le fait qu'il y ait un regain des idées indépendantistes et souverainistes en Kanaky. Bon, ce qui n'est pas nouveau, hein, ça a toujours été un discours colonial de n'imputer à l'étranger, à la main de l'étranger, la volonté d'indépendance décolonisée. Mais je pense que ces éléments-là expliquent pourquoi il y a ce blocage et ce verrou aujourd'hui qui essaye de maintenir l'Élysée.
Et bon, là, si on n'était pas là, nous, ils auraient simplement des accords avec des pays à côté, peut-être.
Mais la géographie, effectivement, voudrait que les accords de coopération soient des accords régionaux. Après, dans le projet politique du FLN-CANES et puis de d'autres mouvements, il y a différents degrés d'indépendance qui sont proposés, on va dire. Et la question d'une indépendance association avec la France n'est pas rejetée par tout le monde. Enfin, donc il y a tout un panel de possibilités qui pourraient être mises sur la table et discutées. On n'est pas sur deux blocs complètement opposés sur des positions irréconciliables. Mais en revanche, on entend aujourd'hui du côté français que les voix les plus extrémistes sur le sujet.
D'accord. Juste un tout dernier petit mot. Richard, tu disais leur but au Kanak, c'est une souveraineté pleine et entière.
C'est ce qu'ils réaffirment, oui, effectivement, les indépendantistes, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, ça ne les a pas empêchés d'accepter donc différents accords. C'est-à-dire ils savent que la décolonisation peut être graduelle, et c'est ce qu'on a pu observer donc depuis le début des années 80. Donc bon, il y a eu quelques avancées donc avec le Congrès et puis donc les gouvernements provinciaux. Mais donc effectivement, eux, l'objectif, c'est l'indépendance pleine et entière, oui. Absolument.
Merci beaucoup à vous
merci.
Deux.
Merci.
Je vais me faire engueuler. À bientôt.